Bonjour à tous et bienvenue dans Au-delà du sport, votre rendez-vous mensuel pour explorer tout ce que le sport nous fait vivre. Une fois par mois, on prendra le temps d'aller plus loin que les scores et les médailles pour voir ce que le sport raconte de nous, de nos cultures et parfois même de nos défauts. Il sera abordé le courage de certains sportifs, la transmission d'une passion et des exploits qui nous ont marqués en tant que fans absolus. Cette nouvelle émission, j'ai voulu aborder un thème qui marque la nouvelle génération depuis quelques années, et qui redéfinit les enjeux de cette passion qui anime nos cœurs. L'impact écologique des grandes compétitions sportives. Le sujet touche le monde actuel, car nous sommes dans une société dans laquelle l'environnement n'a jamais été autant d'actualité. C'est pourquoi je vais traiter d'un exemple qui est récent, la Coupe du Monde de football en 2022, qui a eu lieu au Qatar, et toutes les grandes polémiques qui ont eu lieu tout le long de cette compétition. J'ai voulu mettre en lumière l'écologie dans le sport, expliquer que le spectacle que nous donnent les compétitions internationales a un contrepoids, leur impact écologique sur la planète qui n'est pas du tout neutre. Les organisateurs de la Coupe du Monde de 2022, ainsi que la FIFA, promettaient une compétition neutre en carbone. Mais l'objectif n'a pas été réellement atteint, avec plus de 6 millions de tonnes de CO2 émises rien que lors de la construction. En effet, avant même le début de la compétition, certains criaient déjà au scandale. 7 stades ont été construits spécialement pour l'événement en plein désert, nécessitant une climatisation intérieure et extérieure. La distance entre les stades obligeait alors une organisation spéciale au niveau des transports et donc un trafic permanent. Cette compétition que tous les grands fans de football attendaient a alors subi une vague de boycott de la part de nombreuses ONG et de nombreux citoyens. Je vais maintenant vous parler de l'impact qu'a eu la construction de toutes les infrastructures au Qatar. Un impact qui est évidemment environnemental, mais aussi et surtout humanitaire. Et pour comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord rappeler un chiffre simple. Avant l'attribution de la Coupe du Monde, un seul sur les 8 stades existait réellement au Qatar. Pour organiser la compétition, il a donc fallu en construire 7 nouveaux. Construire 7 stades dans un pays désertique, qui manque quasiment de tout sur le plan des matériaux, ça signifie 3 choses importantes. Du béton, de l'acier et un transport massif de matériaux importés. Des matériaux qui sont importés évidemment par avion. Par exemple, pour un stade de 40 000 places, on utilise en moyenne plus de 20 000 tonnes d'acier. Vous imaginez l'empreinte carbone, surtout quand on sait que presque tout devait être acheminé par bateau ou par avion. Au total, les infrastructures liées à la Coupe du Monde 2022 représenteraient près de 70% des émissions totales de l'événement, soit plusieurs millions de tonnes de CO2. Alors oui, il y a eu une innovation intéressante, le stade 974. C'est un stade construit à partir de 974 conteneurs, entièrement démontable et censé être réutilisé ailleurs. Sur le papier, c'est plutôt ingénieux. Dans les faits, ça reste une exception. C'est qu'un seul stade sur les 8. Puis la Coupe du Monde, ce n'est plus que des stades. C'est une nouvelle ligne de métro de 76 km, des autoroutes, un nouvel aéroport, des quartiers entiers d'hébergements provisoires, dont certains ont été vidés ou abandonnés juste après le tournoi. En résumé, on a construit en 10 ans ce que certaines villes mettent 50 ans à bâtir. On a vu apparaître une sorte de ville éphémère conçue pour accueillir un événement d'un mois. Et une fois les supporters repartis, une question s'est posée. Que faire de tout cela? Beaucoup de stades ont dû être partiellement démontés, réaffectés ou transformés en centres commerciaux ou équipements scolaires. Mais même avec ces efforts, le phénomène qu'on appelle en urbanisme les éléphants blancs reste très présent. Des infrastructures gigantesques qui coûtent cher, mais qui servent très peu après l'événement. Puis, avec ce volet écologique, il y a aussi le volet humanitaire. Parce que toutes ces infrastructures, quelqu'un devait les construire. Selon l'Organisation internationale du travail, plus de 30 000 travailleurs migrants ont été employés sur les chantiers liés à la Coupe du Monde. Beaucoup venaient du Népal, d'Inde ou du Bangladesh. Les ONG parlent depuis des années de conditions de travail difficiles. La chaleur extrême, des logements précaires, la confiscation de passeports et un système juridique appelé la kafala qui rendait les travailleurs entièrement dépendants de leur employeur. Certaines ONG estiment que plusieurs milliers de travailleurs migrants sont décédés au Qatar depuis l'attribution de la Coupe du Monde en 2010, même si les chiffres exacts sont difficiles à établir. Quand on met tout cela ensemble, les stades, les transports, les logements, les matériaux, l'énergie et surtout les vies humaines, on peut comprendre que construire un événement de cette ampleur dans le désert, c'est pas juste une prouesse architecturale, c'est aussi un choix politique et de société avec des conséquences humanitaires et écologiques qui vont bien au-delà du football et qu'il faut prendre en compte. Continuer, une fois toutes ces infrastructures créées, il a fallu organiser les déplacements pour relier et faciliter le séjour des 1,4 million de visiteurs venus assister au spectacle de la Coupe du Monde. Et c'est là qu'on touche à l'un des aspects les plus polluants de l'événement, la mobilité. D'abord, il faut comprendre un point essentiel. Doha n'avait pas assez d'hébergement pour accueillir un tel volume de touristes. Donc beaucoup de supporters n'ont pas logé au Qatar, mais dans les pays voisins. Par exemple, Dubaï, Abu Dhabi ou encore Oman. Pour relier ces villes au Qatar, une solution a été mise en place. Les fameux vols navettes. Plusieurs dizaines de vols par jour, spécialement créés pour transporter les supporters avant et après les matchs. Pour se rendre compte de ce que ça représente, entre Dubaï et Doha, il y avait entre 40 et 60 vols quotidiens durant la Coupe du Monde. Et un avion, ce trajet émettait environ 60 à 80 tonnes de CO2 pour un aller-retour. À l'échelle du tournoi, ces navettes représentaient des centaines de milliers de tonnes de CO2 uniquement dédiées à un mode de transport que d'autres pays organisateurs n'ont jamais eu à mettre en place, comme en Russie en 2018. Au final, Qatar 2022 s'est devenu l'exemple même d'un événement dépendant presque entièrement de l'avion. Il faut rappeler que le Qatar est un pays très petit. On peut le traverser en 2 heures. Mais pour y assister, parce que tout le monde a dû prendre l'avion. Parfois plusieurs fois, que ce soit pour rejoindre Doha, pour repartir, ou même pour dormir dans un autre pays. Et évidemment, les supporters ne sont qu'une partie du problème. Il faut aussi compter les équipes nationales qui ont effectué plusieurs vols internes pour leurs entraînements ou leurs déplacements logistiques, les médias internationaux, des dizaines de milliers de journalistes et techniciens sont venus spécialement pour la compétition, les livraisons, le transport de matériel sportif, audiovisuel, médical, de nourriture, et même du gazon importé d'Europe ou des États-Unis. C'est une ressource que le Qatar n'avait pas entre ses mains. Dans un pays où presque rien n'est produit localement, chaque objet ou presque doit être importé. Et plus un événement repose sur le commerce international, plus il repose sur le transport aérien, qui est l'un des secteurs les plus émetteurs au monde. Selon la FIFA, les déplacements internationaux des supporters et des équipes représentent environ 52% des émissions totales de la Coupe du Monde. Autrement dit, la moitié du bilan carbone du tournoi. Il faut bien simplement décider de devoir y aller. Et c'est là qu'on voit le cœur du problème environnemental. Organiser une Coupe du Monde dans un pays aussi petit et aussi peu peuplé, qui est isolé géographiquement, a créé une situation où l'avion était incontournable. Aucun train international, aucun réseau routier régional adapté, aucune alternative réellement viable. C'est un modèle de tourisme quasi entièrement aérien. En résumé, si les stades ont beaucoup fait parler, ce sont finalement les déplacements qui constituent le véritable poids écologique de cet événement. Mais alors comment organiser de grands événements mondiaux sans dépendre massivement de l'avion? Et la compétition au Qatar n'a pas réellement répondu à la question. On a surtout vu ce qu'il ne faut pas faire. Mais la prochaine Coupe du Monde en 2026, qui se déroule dans 3 pays d'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis et le Mexique, ne va peut-être pas non plus répondre à cette question au vu des longues distances qu'il y a entre chaque pays et chaque stade. Pour terminer, avec le scandale environnemental de cette compétition, il faut parler d'un point qui résume presque tout à lui seul. L'énergie et la consommation sur place, et en particulier la climatisation. Au Qatar, même en novembre et décembre, les températures dépassent régulièrement les 28 à 30 degrés. C'est pour ça que la compétition a été faite lors de ces mois-là, parce qu'en été, ça aurait été plus de 40 degrés. Pour garantir des conditions de jeu optimales, plusieurs stades ont donc été équipés d'un système inédit de la climatisation en plein air, maintenu en continu pour garder les terrains entre 21 et 23 degrés. C'est unique au monde, mais c'est aussi extrêmement énergivore. Chaque stade compte au moins l'équivalent de centaines de maisons fonctionnant en même temps pour refroidir de l'air extérieur. Mais la climatisation, ce n'est que la partie visible du problème. Il y a aussi la question de l'eau, indispensable pour entretenir les pelouses. Le Qatar étant quasiment totalement un désert, il n'a quasiment aucune eau douce naturelle. Les organisateurs ont donc dû arroser les terrains avec de l'eau douce artificielle, un procédé qui nécessite énormément d'électricité. Pour se rendre compte, une pelouse de stade demande 50 000 à 100 000 litres d'eau par jour. Et parfois, jusqu'à 10 000 litres rien que pour l'arroser avant un match. Avec plusieurs stades entretenus en parallèle, la consommation totale devient gigantesque. Mais ce n'est pas tout. Les fan zones, ces grands espaces réunissant des milliers de supporters, ont elles aussi entraîné une consommation énergétique colossale. Il y avait des écrans géants allumés pendant des heures, un éclairage qui est massif, de la restauration non-stop, de la climatisation et des tonnes de déchets produits par les supporters chaque jour. Cela dans un pays où l'électricité provient exclusivement du gaz naturel, ce qui alourdit encore le bilan carbone. Finalement, le Qatar a créé un environnement entièrement artificiel, qui contourne les limites naturelles du désert grâce à une dépense énergétique énorme. Climatisation extérieure, eau produite artificiellement, lumière, espaces de divertissement, tout a été pensé pour offrir un confort total, mais à un coût écologique immense. Malgré ce désastre environnemental, il faut tout de même s'intéresser à un aspect un peu particulier de la Coupe du Monde 2022. Toutes les tentatives de verdissement mises en avant par le Qatar et la FIFA. Officiellement, l'événement était présenté comme carbone neutral, c'est-à-dire neutre en carbone. Mais on a vu auparavant que ça n'a pas réellement été le cas. C'est un message très fort, presque révolutionnaire pour un événement sportif de cette taille. Mais évidemment, ce label a été très largement critiqué. Mais pour quelle raison? D'abord, parce que pour être neutre en carbone, il faut compenser toutes les émissions qui n'ont pas pu être évitées. Et dans le cas du Qatar, on parle de plusieurs millions de tonnes de CO2. Or, les compensations mises en place étaient jugées très insuffisantes. Trop peu de projets, mal contrôlés et avec des mécanismes parfois discutables. Certains experts expliquaient même que pour atteindre la neutralité réelle, il aurait fallu compenser 5 à 10 fois plus que ce qui avait été prévu. Ensuite, il y a la question de la comptabilisation. Par exemple, la FIFA a compté les stades comme s'ils allaient être entièrement utilisés pendant des dizaines d'années, ce qui permettait de diluer leur impact carbone dans le futur. Mais beaucoup d'experts rappelaient qu'en réalité, certains stades risquaient de servir très peu, voire juste un mois pour la compétition. Donc oui, la neutralité carbone était surtout une stratégie de communication assez éloignée de la réalité. Mais pour être honnête, tout n'était pas négatif. Certains progrès étaient réels, comme par exemple le système de contrôle intelligent de la climatisation, capable de cibler seulement les zones occupées par le public. Ou encore le stade 974, déjà évoqué auparavant, où le stade modulaire est démontable, qui pourrait inspirer de nouvelles compétitions par le futur. Le pays a aussi mis en service une flotte de bus électriques, ce qui a tout de même réduit une partie des émissions locales une fois que les supporters étaient arrivés sur les terres du Qatar. Le problème, c'est que ces innovations se retrouvent noyées dans un océan de décisions difficilement défendables. Et quand on compare avec d'autres événements récents, comme les JO de Paris 2024, la différence est vraiment frappante. Paris repose à 95% sur des infrastructures déjà existantes, un réseau de transport en commun très développé et un système de compensation carbone mieux encadré. Il existe alors bel et bien des alternatives plus adaptées et plus durables. Mais finalement, Qatar 2022 illustre parfaitement la frontière très floue entre innovation environnementale et greenwashing. Oui, certaines idées méritaient d'être conservées. Mais trop souvent, l'objectif n'était pas de réduire réellement l'impact, mais de donner l'image d'un événement responsable. C'est cette ambiguïté qui rend la compétition au Qatar si intéressante à développer. et à étudier, mais aussi si difficile à défendre. Parce que rien que le choix de faire cette compétition au Qatar dans un désert et un pays si petit, 10 ans auparavant de la compétition, a rendu l'événement indéfendable. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quelles sont les leçons à tirer si on veut organiser à l'avenir des compétitions vraiment durables? La première question est simple. Faut-il éviter d'organiser des événements dans des environnements extrêmes? Le Qatar a montré à quel point c'est compliqué, tout comme les JO d'hiver en 2022 ayant eu lieu sur une neige artificielle. Dès qu'on doit climatiser un stade ouvert, emporter de l'eau, des matériaux ou des supporters par avion, l'empreinte écologique explose. Donc oui, il faut réfléchir sérieusement au choix du lieu, privilégier des endroits où les conditions naturelles sont compatibles avec le sport. Deuxième leçon, il faut absolument réutiliser les infrastructures existantes. Les stades construits uniquement pour une compétition qui finissent vides ou inutilisés, c'est un des pires scénarios possibles. C'est justement ce que Paris 2024 ou Los Angeles 2028 essaient d'éviter. Troisième point, il faut penser des compétitions plus compactes, plus concentrées géographiquement. Moins il y a de déplacements, surtout en avion, plus l'impact carbone diminue. L'idée d'un tournoi réparti dans 3 ou 4 pays, très éloignés, ce qui va arriver en 2026 et en 2030, va complètement à l'inverse de cette logique. Il y a aussi un rôle pour les organisateurs. Être transparent, publier des bilans carbone vérifiés, imposer des normes écologiques strictes et surtout, arrêter de promettre une neutralité qui n'est pas forcément atteignable. Et puis, il y a le rôle du public. La pression de l'opinion peut pousser les institutions sportives à changer. Les supporters peuvent aussi réfléchir à leur manière de se déplacer, privilégier le train quand c'est possible ou soutenir les événements qui font réellement des efforts. En conclusion, le Qatar est devenu réellement un cas d'école, un laboratoire grandeur nature qui montre ce qu'il faut éviter absolument, mais aussi quelques pistes intéressantes pour l'avenir. Si on veut des compétitions durables, il va falloir s'inspirer des bonnes idées et surtout ne pas répéter les erreurs gigantesques de 2022. Mais avec la nouvelle Coupe du Monde qui arrive cet été, certaines erreurs risquent d'être réitérées par la distance inévitable entre les différents lieux de la compétition, qui se passe sur 3 pays. Le mois prochain, on repartira ensemble pour une nouvelle aventure sportive, entre émotions, héros et moments de légende, là où le sport français et mondial nous réunit tous. C'était Au-delà du sport, votre rendez-vous mensuel, et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle aventure.